BD Culte, exploration de planches iconiques du 9e art, une série en partenariat avec la revue Papier Nickelé. Ce mois-ci, on va vous parler de Aria, l'héroïne blonde, sexy, guerrière du journal Tintin, à l'occasion de l'intégrale des 3 premiers tomes publiés chez Dupuis. Alors Aria, elle commence à la 35e année du journal Tintin, une série qui ne s'arrêtera qu'en 2021, pré-publiée effectivement au Lombard pour les 15 premiers tomes et reprise ensuite dans la très belle collection Repérage des éditions Dupuis en 82. On a 40 albums de cette héroïne et peu de choses, peu d'études autour du travail fait par Michel Vélan, son papa, à part un numéro de BD Sup 40-41 de 87 où il est peu dissert. Par contre, dans le dernier album, paru en 2021, Carnet de voyage, là, Michel Vélan se laisse aller à quelques confidences et il parle de ce rapport intime avec cette héroïne assez extraordinaire qui a marqué l'histoire de la BD franco-belge. Alors, on évoquera le tome 33, Les Rescapés du souvenir. C'est un peu une Madeleine de Proust, puisqu'en fait, à travers un médaillon, Aria va se rappeler un drame familial. Et puis, c'est une introspection, un voyage dans le temps, et sur la question que beaucoup d'enfants se posent de est-ce qu'on peut sauver ses parents. Voilà, on redéveloppera, on parlera de 3 planches de l'album. Mais avant, il faut nous rappeler qui est Michel Vélan, qui est toujours parmi nous. Michel Vélan, il est né le 19 août 1947 à Ixelles, en Belgique. Il le dit dans l'album 40, il a le don du dessin par sa maman. Et il va essayer de publier au journal Tintin, il va avoir beaucoup de refus. Jacques Martin, quand même le papa d'Alix, va regarder ses planches et lui dit d'aller prendre des cours. C'est ce qu'il fait en faisant une formation aux arts plastiques de Saint-Luc. Alors à l'époque, il n'y a pas vraiment de section de bande dessinée et ça va se développer au moment où il arrive. Il va suggérer à ses profs de développer une section BD qui va ensuite accueillir la plupart des grands auteurs BD franco-belges. Il va vite s'éloigner de l'université pour travailler en tant qu'autodidacte et il va quand même percé dans Tintin, enfin, en 68, avec bizarrement une série de science-fiction, Stéréoland, donc qui reste pas grand-chose aujourd'hui. Il va faire des petits dessins, dessins animés pour pourquoi la série, pourquoi pas, en 72-75. Après une grande pause de plusieurs années, de 4 ans, il revient fin 79 dans le journal Tintin. Et là, le journal Tintin, la série Aria va être soumise au rituel du pour ou contre. C'est les lecteurs qui vont effectivement décider de la poursuite de cette série et de son éventuelle publication en album. Eh bien, les lecteurs vont finalement l'emporter et vont plébisciter Aria, qui va avoir ensuite 15 albums publiés aux éditions du Lombard. C'est la série unique de Michel Vélan, hormis un très bel Ivanel, la dame du Mordorès, paru dans la collection Contes et légendes en 1988. Voilà. Il faut savoir que Aria, globalement, suit une chronologie, un parcours de vie. À part les tomes 1 et 2, où on a des histoires courtes, qui étaient des histoires tests, qui sont publiés par ordre d'importance, de durée, mais pas par ordre chronologique de temps. Voilà, mais c'est quand même intéressant, c'est celle qu'on retrouve dans l'intégrale qui vient d'être publiée, où il n'y a malheureusement pas beaucoup de matériel critique. Alors, se dire que Michel Vélan est un auteur complet, c'est-à-dire il est le scénariste et le papa d'Aria. Alors, au début, il crédite sa femme comme scénariste, puisqu'en fait, au niveau du journal Tintin, Michel Grec, qui est rédacteur en chef, essaye de s'immiscer, et Vélan lui dit, bah non, tu risques de vexer ma femme, et effectivement, cette femme, elle va être Nadine Vélan, elle va être fondamentale, puisque c'est elle qui va faire les couleurs de cette série, et les couleurs tiennent beaucoup, donnent beaucoup un succès, et tiennent la série dans des palettes graphiques assez somptueuses. Alors, on a quand même, chez Vélan, on va le retrouver dans l'univers qu'on va décrire, une grande influence d'une culture ésotérique. Par exemple, la réincarnation dans le tome 10 et dans ce fameux tome 33 qu'on va évoquer, c'est quand même toute l'idée de la thérapie, hein, du voyage dans le temps. Donc c'est quelque chose d'assez étonnant. Alors, on va parler de ce tome 33 qui est assez... Donc on est à 6 tomes de la fin. Et donc, effectivement, là, c'est un peu un tome de bilan, puisque Arya est une jeune femme, une guerrière, mercenaire, en errance, qui a un parcours un peu difficile, sentimentalement. Et là, le pitch de l'album, c'est qu'après des années d'aventure, elle rentre au bercail, mais dans son château, le manque d'activité et la solitude la plongent dans une mélancolie. Son fils guérisseur est surpris par la force du démon que Arya a toujours. Hein. Le mal qui la ronge cache en un traumatisme enfoui au plus profond d'elle. Un phénomène étrange la plongera dans un état de conscience qui va lui faire revivre la scène tragique qui l'empoisonne. Voilà. Est-ce qu'elle va la subir une seconde fois ou va-t-elle la transformer ? Voilà, avec la rencontre d'un curieux mage sorcier qui va l'aider à se guérir de ce passé. Alors, on va évoquer les planches 22, 23 et 24 où Arya, effectivement, est confrontée à travers une séance un petit peu d'hypnose. Elle se voit, voilà, dès la page 20, elle se voit petite avec le médaillon que sa mère lui avait offert, un médaillon offert en forme de coquille Saint-Jacques, voilà, il y a quand même une symbolique, et on voit que les timelines sont poreuses, et à partir de la page 22, eh bien, Arya pénètre l'univers du passé. Donc elle coexiste avec l'Arya petite, où effectivement on a une scène où les parents sont obligés de fuir, puisque leur village est menacé par des soldats. Alors, on va écouter effectivement ces trois planches, et on commence par le personnage d'Arya, qui regarde les soldats arriver à la ferme. Mais en fait, il dit ils sont partis tout juste à temps. Ce n'est pas le cas de leurs malheureux voisins. Quelle horreur ! Des cris viennent de partout. Serais-je en train d'assister au massacre de Travelborg ? Voilà. Là, elle parle de ses parents, hein, qui sont partis juste à temps. Et là, elle les voit. Ils descendent vers la rivière. Je me souviens maintenant du chemin du petit pont de bois et de notre voleur accosté en contrebas. Trop tard ! Oui, les parents se retrouvent face à des soldats masqués. Ils bifurquent par le sentier du pêcheur. J'aurais fait de même, je le reconnais bien. Les soldats vont s'y perdre, tant mieux. Mais ils sont partout, ces salopards. Les voilà pris en tenaille. Je connais la suite et je n'ai pas du tout envie de la revivre. Pourquoi m'imposer cet enfer ? Papa me lance dans les fourrés. Bonne idée, voilà sûrement pourquoi je suis resté en vie. Ça me revient. Il m'avait dit de me cacher, de fermer les yeux. Les malheureux, ils n'ont plus d'autre choix que de se défendre à 1 contre 10. Je ne peux tout de même pas assister à ce massacre sans agir. Et là, donc, plusieurs planches muettes où Arya essaye de combattre les soldats, mais elle passe à travers. Inutile, je me bats contre des images, des souvenirs, des fantômes. Je vais devenir folle, vous m'avez menti, sorcière. La partie est truquée, sortez-moi de là tout de suite. Voilà. Et après, par des très belles planches de fondu enchaîné, Arya revient à sa réalité, et là, elle était effectivement sous hypnose. Et donc, la sorcière lui parle. « Ça va. Je t'ai bien entendu et j'ai obéi. Te voilà de retour au présent. Calme-toi et évite de regarder les flammes. Je me souviendrai de cette petite escapade intérieure. Viens, dégourdis-toi les jambes. Tu dois en avoir besoin. Vous m'avez suivi jusqu'au bout. Je t'ai assisté, oui. Alors, pourquoi m'avoir fait croire que je pouvais mener à bien cette aventure ? Désolé. Ces voyages réservent parfois une part d'imprévu, mais tu as déjà franchi une étape, tu as découvert tout ce que ta mémoire a toujours voulu te cacher. Le souvenir de cette agression t'infecte l'âme comme un abcès, mais le travail commence à peine, ma belle. Tu vas le crever, cet abcès, et la vie reprendra en toi. Retourner là-bas pour assister à ces horreurs sans pouvoir intervenir, ça ne va pas à la tête. Si près du but, tu me déçois. Tu n'as donc pas l'étoffe d'une guerrière. Si, mais pas dans ces conditions. Cette aventure ne me laisse aucun champ d'action. Voilà. Donc là, on a un paradoxe de cette série d'Acmé, où Arya était en général une guerrière active, et là, elle assiste passivement à quelque chose qui peut être la fin de sa famille. Alors voilà, on n'en dira pas plus, parce qu'il y a une résolution, il y a une forme de happy end qui arrive après dans cet album qui est très paradoxal, mais dire que sur les trois planches, on a un gaufrier classique, hein, avec des espaces plutôt rectangulaire, un rythme assez évident, hein, c'est-à-dire il n'y a pas de cases qui l'emportent à peu près, sauf sur la page 22, la case du pont, mais globalement, c'est séquencé selon un rythme où on a à la fois deux timelines qui sont qui se retrouvent, et ces timelines fusionnent avec toujours des gros plans sur le regard d'Aria, et l'expressivité du regard de l'héroïne est très bien rendue par Vélan. Et on a plusieurs planches de fondu enchaîné où le regard fusionne avec le paysage, et il fusionne aussi, ou il défusionne avec des plumes. Donc on a cette idée d'un passage avec un acte magique. Et c'est vrai que les couleurs aussi, hein, les couleurs entre les verts, les rouges, les jaunes, les bleus, donnent une très belle expressivité, une belle dramaturgie à cette histoire effectivement nous amène amène Aria surtout à se questionner sur finalement ses blessures les plus profondes et comment elle peut rebondir. Voilà. Alors, dire qui est ce personnage de la BD franco-belge, qui est quand même une des premières grandes héroïnes, un petit peu sexy quand même pour un journal à l'époque où il y avait quand même un peu de censure, et elle a réussi à passer à travers en restant en général assez habillée, mais avec de jolies formes. Alors, c'est une femme forte, physiquement, psychiquement, qui aspire à la liberté. Elle va avoir toujours 20 ans à peu près dans cette histoire, c'est assez étonnant. Son cheval fidèle s'appelle Furia, elle ne le quitte jamais. Et son prénom est lié à la musique. Michel Vélan joue de la guitare, et le premier album qui s'appelle La Fugue d'Aria est un peu une métaphore de cet amour de la musique. Et à noter qu'elle joue de la harpe dans le tome 15 qui s'appelle Vendéric. On peut dire qu'Aria, c'est une beauté nordique qui a été clairement, à un moment donné, quand Vélan a posé son style, inspiré par le visage d'Agnetha Falkstock du groupe ABBA. Alors, elle est experte dans le maniement des armes, elle a une plastique sexy assez hors norme pour l'époque, et effectivement, elle a plusieurs traumas, notamment celui qu'on vient d'explorer un petit peu dans l'analyse de ses planches, lié à la perte de ses parents. Et après, on a appris aussi qu'elle a été plus petite, donc abandonnée, confiée à un oncle, et aussi volée par des trafiquants d'enfants et violée. Voilà, ça c'est une des rares fois qu'on a ça dans les BD franco-belges des années 80-90, tout en étant suggéré, mais c'est quand même assez violent. Et ce personnage donc va petit à petit se reconstruire, va faire l'expérience de la maternité, l'épisode 20, La fleur au ventre, avec un enfant, mais cet enfant va être un enfant mutant. Il va s'appeler Champ d'étoiles, il va devenir guérisseur, et elle est souvent malheureuse en amour, hein, au tome 38, son aventure avec Fieber, et elle a par contre des amitiés féminines fortes, c'est le cas de Rexane dans le tome 23. Voilà, donc un personnage qui a du mal à se fixer, qui est en errance, et qui à partir du tome 33, à partir du moment où elle aura résolu ce traumatisme à travers un voyage temporel, elle va entreprendre un voyage intérieur et peut-être un chemin vers le bonheur. Alors, quel est cet univers de Aria? Il est difficile à donner dans l'espace-temps, à borner. C'est une époque plutôt indéterminée. Est-ce que ça, c'est pas notre futur? C'est une hypothèse. On est avec des codes de l'heroic fantasy, des mondes bizarres. Il est question de sorcellerie, de possession, de monstres fabuleux. On peut donner quelques titres. Les Draguédons du tome 24, les Xérènes du tome 25, les Crifles du tome 28. Donc, vous voyez, une invention dans les mots. Et aussi la question des mutants dans le très beau diptyque des Chevaliers d'Aquarius des tomes 4 et 5. Et l'existence aussi d'un clergé de sages qu'on appelle les Fronne, voilà. Donc c'est tout ça mêlé avec le trait réaliste de Michel Vélan, qui effectivement tient beaucoup de son amour pour les travaux d'Hermann. Hermann, c'est Jérémia, les Tours de Bois-Maury, et Paul Cuvelier avec sa série Corentin. Voilà. Alors, il y a énormément de références hein, dans Aria, des références un petit peu au mythe un peu, oui, au mythe et légende, on va dire. On va trouver du celtisme dans les Stone Age, dans le tome 8, le Méridien de Posidonia, l'alchimie dans le tome 25, le Jardin de Baum, les chimères, Thoron dans le tome 11, des Indoptables. Il est question même de Lagartha dans le tome 12, Jeanne et Cendre, d'un golem dans le tome 13, le cri du prophète, et même de la mystérieuse civilisation des Amazones dans le tome 19, Sacristar. Alors, le style de Michel Vélan pour développer tout ça, c'est un dessin, donc on l'a dit, réaliste, assez souple, et un travail de couleurs fait par sa femme Nadine, avec quelque part, toujours, une quête de la beauté. Ça veut dire que même s'il y a une certaine violence, il n'y aura pas de complaisance. On est sur des albums qui peuvent se voir, se relire, et avec effectivement une décomposition assez harmonieuse. Alors, au niveau des grandes thématiques qui sont un peu la philosophie de cet auteur, eh bien c'est la question de l'unité du vivant, hein, l'unité entre les arbres, les élémentaux, on pense au Elfling du tome 6 par exemple, la question de la magie opérative, hein, c'est étonnant que dès le tome 2 il est question de forme pensée. Dans le tome 10 il est question d'une gornex qui est une espèce de pierre météoroïque, une espèce de graal ou de, et assez étonnant. Et puis derrière cette histoire de magie, il y a cette histoire d'abus et de manipulation sectaire qui va être en acmé dans le tome 25, les jardins du Baum. La question du karma aussi qui est importante, ça c'est assez étonnant, ce karma des vies antérieures, qui apparaît aussi dans le tome 30. Hein, là, dans le tome 16, c'était une OV qui se rappelait d'une vie antérieure. Et dans le tome 30, Renaissance, c'est Arya qui a la mémoire d'une vie antérieure où elle a été brûlée. Donc c'est très étonnant, cette thématique. Et cette série, effectivement, va s'arrêter en 2020-21, en 40 tomes. L'ironie, c'est que Michel et Nadine ont eu une fille qui s'appelle Arya. Il n'y aura pas vraiment de séries télé, de dessins animés, mais des objets dérivés à usage privé. Un ami va leur faire un buste, une lance, un coffre, et un distributeur suisse va créer une gamme de bijoux et de bottes en cuir que Arya porte dans la série. Voilà. Donc pas grand chose, pas beaucoup d'interviews de Michel Vélan, à part celle de BD Sup. Mais par contre, effectivement, on peut découvrir que le sens de cette série, à avoir avec le mysticisme. Et on a ça dans l'introduction de la Ivanel, qui est la seule histoire longue de la série Histoire et Légende, qui est liée à la quête du Graal aussi. Et Vélan, dans la préface, dit que pour lui, l'homme fait partie d'une conscience énergie universelle. Donc ça, c'est très intéressant. C'est un petit peu New Age, mais peut-être plus profond que ça, puisque il va concevoir sa série comme un voyage, une pérégrination d'un personnage à travers des épreuves guerrières, mais aussi un voyage intérieur avec ce tome 33. Vous voyez, 33, c'est un chiffre symbolique aussi. Mort et renaissance, peut-être d'un personnage christique, d'un chemin de croix que vit cette femme. Et effectivement, la grande révélation quand même dans le tome 39, qui est le dernier tome de la série, parce que le tome 40 sera juste un carnet de voyage avec un flashback sur les parcours d'Aria, c'est que le passé d'Aria est notre avenir. Voilà. Ça, c'est assez fou de voir qu'effectivement, notre civilisation pourrait collapser et on reviendrait à des formes de magie archaïque. Et voilà. Et derrière cette série, on peut se demander, vu que Arya physiquement ne change pas beaucoup, elle a toujours 20 ans, s'il n'y a pas la question de la quête de l'âme, de la quête de l'immortalité à travers ce personnage et aussi d'un bonheur simple. Voilà. Pour conclure, on va lire la conclusion que Michel Vélan donne à la fin de son carnet de voyage, qui est le dernier tome paru en 2021. Il conclut cette série de façon limpide, et très simple, et très belle. Après toutes ses aventures, Arya coule des jours heureux avec ses chats en bord de mer.